أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Au cours de mon précédent sermon, j'ai évoqué l'attribut Al-Nafi' de Dieu et j'ai déclaré que celui qui accorde réellement des avantages est Dieu lui seul. C'est pour cette raison qu'il est digne d'adoration et ainsi l'on sera héritier de ses faveurs ici-bas et dans l'au-delà aussi, l'on va profiter de ses faveurs. Et il a déclaré qu'il faut l'adorer d'une part, mais il faut aussi mettre en pratique tous ses commandements. Allah n'a pas tout simplement déclaré que, puisque tout avantage vient de lui, ou que tout avantage est lié à sa personne, qu'il faut l'adorer pour cette raison. Mais il a aussi déclaré que toute chose a été créée par lui. Et c'est par sa permission que ces choses accordent des avantages ou causent du tort. Ce sont des choses sur lesquelles dépend votre vie. Ces choses ont été créées par Dieu. Dieu déclare qu'il est le Rabbul Alamin. Puisqu'il est le Rabbul Alamin, puisqu'il est le pourvoyeur, l'on ne pourra pas trouver davantage ailleurs. Le Messie premier al-Islam a évoqué ce sujet dans ses écrits et déclare que la Rabboubia de Dieu, c'est-à-dire le fait qu'il crée et qu'il fait progresser chaque chose jusqu'à son apogée est un fait qui concerne toute la création. Voilà donc le sens de la Rabboubia de Dieu. Il ne se contente pas de créer uniquement, mais il pousse la création à son apogée. Et depuis la création de l'univers, quotidiennement, nous envoyons de nouvelles manifestations. L'homme est de nature curieuse. C'est ainsi qu'il a été créé par Dieu. C'est ainsi qu'il a été créé par Dieu. Et Allah dévoile de nouvelles manifestations suite aux efforts de l'homme. Il y a dans l'univers le monde céleste qui concerne les étoiles et les constellations, mais il y a aussi un univers terrestre. Et sous terre se trouvent différents trésors. Sous terre aussi, il y a tout un univers. Et les scientifiques ont fait des recherches à ce propos et nous ont informés de ces choses qui sont cachées. Et ensuite, il y a l'univers des végétaux, l'univers des plantes et des fleurs et des racines. Et l'on ne peut dénombrer ces nombres de plantes. Et ensuite, dans chacune de ces plantes, l'on voit une manifestation de Dieu. Il y a d'une part des plantes comestibles, mais il y a aussi d'autres plantes qui ont des vertus thérapeutiques. Il y a certaines plantes qui ont été découvertes par l'homme et il y a beaucoup d'autres plantes à propos desquelles on n'a pas fait des recherches. Il y a aussi le monde des insectes. Nombre de choses ont été créées par Dieu. Et chaque création a un but, chaque création a un objectif à atteindre. Et Allah a aussi créé leurs moyens de subsistance. Le Messie premier, alayhi salam, déclare que la raboubia de Dieu recouvre toute la création. Cela concerne le monde des corps physiques et des corps spirituels. Cela concerne le monde des animaux, des végétaux. Cela concerne le monde inanimé. Et cette raboubia est connue sous le titre de grâce générale. Cette raboubia concerne donc tous les univers. Cela concerne le monde animé et le monde inanimé. Et cette raboubia est considérée comme une grâce générale. Tout ce qui existe profite de cette grâce et tout arrive en existence grâce à ses qualités divines. Tout a été créé par cette raboubia. Le Messie premier salam déclare, certes, la raboubia est une grâce générale, c'est la cause et le soutien de toute la création. Mais celui qui en tire le plus de profit, c'est l'homme lui-même. Car l'homme profite de toute chose qui a été créée par Dieu. C'est pour cette raison que on a fait rappeler à l'homme que ton Seigneur est le Rabbul Alamin, afin que l'homme puisse avoir de l'espoir et être certain que la puissance de Dieu est vaste et qu'il peut engendrer tout type de création. Allah est le Rabbul Alamin. Il a créé des choses dont nous en avons connaissance et d'autres dont nous ne connaissons même pas l'existence. Tout cela a été créé par Dieu. Et ce Rabbul Alamin a accordé cette faveur à l'homme, à savoir que toutes ces choses ont été créées pour son avantage, lui le meilleur de la création, afin qu'il puisse en tirer profit. Et plus on avance dans les découvertes concernant la création de Dieu, plus on y trouve des avantages pour l'homme. Le Messie premier l'Islam a évoqué la création de Dieu et nous fait comprendre que tout cela existe et doit faire comprendre à l'homme que c'est Dieu qui lui a accordé autant de faveurs. Ce Dieu lui a créé tout cela et Dieu lui a assujetti toute la création afin qu'il puisse en profiter. Eh bien, ce Dieu qui a créé tout cela a aussi le pouvoir de créer d'autres choses qui lui seront encore plus avantageuses à l'avenir. Et il peut dévoiler les propriétés cachées de certaines choses et les rendre avantageuses à l'homme. À quel point donc l'homme doit-il prouver sa reconnaissance envers un Dieu aussi gracieux? Et imaginez à quel point doit-il s'acquitter de ses devoirs envers Dieu. Et il doit aussi se départir complètement de toute forme d'égocentrisme et doit faire des efforts pour avoir le plaisir de Dieu. Dans le Saint-Coran, Allah a déclaré que j'ai créé toutes ces choses pour votre propre avantage. Lorsque vous allez essayer d'en profiter, sachez que je suis le seul qui a créé tout cela. Non seulement que j'ai créé tout cela, mais je suis celui qui maintient et je suis celui qui contrôle tout. Puisque tout se trouve entre les mains de ce Rabbul Alamin, celui qui est Rahman et celui qui accorde des faveurs, et puisqu'il est celui qui accorde des avantages à ceux qui font des efforts grâce à sa Rahimiyya, sachez alors qu'il est le seul qui mérite l'adoration, il est le seul Dieu. Et ce sera sottise que de se tourner vers d'autres dieux. Il est donc le seul Dieu qui mérite adoration. Il est le Rab, le Rahman, le Rahim. Et il possède d'innombrables autres attributs. Dans le Saint-Coran, Allah déclare « Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wa nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nasa wa ma anzalallahu min as-sama'i min ma'in » فَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْضَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance du jour et de la nuit, et dans les navires qui voguent sur la mer, transportant ce qui est profitable aux hommes, et dans ce qu'Allah fait descendre des cieux qui ranime la terre après sa mort, et où sont répandues toutes sortes d'animaux, et dans le changement des vents, et dans les nuages mis en service entre ciel et terre. Il y a des signes manifestes pour ceux qui font usage de leur intelligence. Dans ce verset, Allah a évoqué certaines de ses faveurs qu'il a accordées à l'homme. Et il déclare que si vous usez de votre intelligence, vous n'allez pas vous égarer. Au contraire, tout ce qui a été créé va vous pousser à vous prosterner devant Dieu, car vous êtes en train d'en tirer profit. Dans le verset précédent, Allah déclare « Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illahu ar-Rahman ar-Rahim » et votre Dieu est un Dieu unique, il n'y a de Dieu que lui, le gracieux, le miséricordieux. Il accorde des grâces sans qu'on lui ait demandé quelque chose. Et lorsque l'homme prouve sa reconnaissance et essaie de profiter de ses faveurs, c'est ainsi qu'il sera l'héritier des faveurs de Dieu. Dans ce verset, Allah a évoqué certaines des manifestations de sa Rahmania. Il déclare que la création des cieux et de la terre est une de mes faveurs. Et je n'ai pas créé tout cela en vain. Mais notre terre est les étoiles, le soleil et la lune, et les gaz, et l'atmosphère, et le vent, tout cela a été créé pour l'homme. Et tout comme l'a déclaré le Messie premier, il y a d'innombrables autres univers qui existent sur Terre. Il y a différents types de créatures, et chacun est en train de vivre en son univers. Tout cela est pour l'homme et pour l'avantage de l'homme. Ensuite, il y a l'alternance du jour et de la nuit. Il y a ces changements au cours de la journée afin de mettre fin à la monotonie de la vie de l'homme. Et ces moments sont importants afin que l'homme puisse se reposer et travailler. Ensuite, il y a les océans sur lesquels voguent des navires qui transportent d'un endroit à un autre des biens et des personnes. Aujourd'hui aussi, on est en train de profiter de ces faveurs, car le commerce que l'on fait aujourd'hui se fait grâce à ces navires qui transportent tout cela d'un endroit à un autre. Et grâce à la mer, Dieu transforme l'eau en nuages, et grâce à cette eau, Dieu redonne vie à l'homme. La subsistance de l'homme et des animaux dépend de cette eau. S'il y a une pénurie d'eau, il n'y aura plus d'agriculture. S'il y a pénurie d'eau, tout le monde va en souffrir. Et si cette sécheresse perdure, il y aura de la famine. Allah a évoqué cela dans la Sourate Al-Mulk. Il a mentionné l'importance de l'eau. Il déclare « Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in ma'in » Dites-moi, si toute votre eau devait disparaître dans les profondeurs de la terre, qui donc vous apportera de l'eau claire et vive? Cette eau de la terre accorde de la vie lorsqu'il y a aussi de l'eau qui tombe du ciel. Ensuite, le vent a de l'effet sur les plantations et sur l'homme. Dans les pays sous-développés, les planteurs disent la même chose. Cela concerne les agriculteurs des pays sous-développés, de l'Inde, du Pakistan et ailleurs. Ils disent que la direction du vent affecte les plantations. Un même vent peut être avantageux à un moment et ce vent peut être désavantageux à un autre moment. Tout cela n'a pas été créé par hasard. Tout cela prouve l'existence de Dieu. En réfléchissant sur la création et sur la création du ciel et de la terre et sur l'alternance du jour et de la nuit, sur les changements de climat, en réfléchissant sur tout cela, l'homme doit avoir de la certitude quant à l'existence de Dieu. Allah, après avoir évoqué cela, déclare que non seulement que j'ai créé tout cela, mais j'en suis le gardien. Et grâce à ma Rahmania, j'accorde d'innombrables faveurs aux hommes. Et d'autre part, grâce à ma Rahimia, je montre des signes extraordinaires. Une fois, une famine a sévi à la Mecque pendant 7 ans et la situation était si déplorable que les gens étaient contraints de consommer la peau et les os des animaux. Le chef de la Mecque s'est présenté au saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, et lui a demandé de prier et de les aider. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, qui est la plus grande manifestation des attributs divins sur terre, eh bien, il a prié et le climat du Hijaz s'est refait. Et ces personnes ont eu de quoi à manger. Et une fois, à Médine, on lui a demandé de prier pour la pluie. Il a prié et les nuages ont recouvert le ciel et la pluie a commencé à tomber drue. Et cette pluie a perduré. Et après une semaine de pluie continuelle, les compagnons ont demandé au saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, de prier pour que la pluie s'arrête. En conséquence, le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a prié et a déclaré « Oh Allah, fasse que la pluie tombe autour de nous et pas sur nous ». Dieu a exaucé sa prière immédiatement. Ensuite, tout le temps, Dieu a donné naissance à des personnes utiles dans cette Oumma. Ainsi, Dieu a prouvé son existence et les gens ont profité de leur existence. Et dans la vie du Messie premier, l'Islam, nous voyons d'innombrables incidents de ce genre, où les gens ont profité de ses prières. Allah déclare que je vous ai assujetti ces choses et en méditant sur tout cela, vous devez progresser davantage dans votre foi. Ensuite, Dieu a cité l'exemple de ce monde matériel et nous fait comprendre qu'un monde spirituel existe aussi. Il nous fait comprendre que ce monde ou ce système spirituel est encore plus vaste, car les avantages matériels restent sur terre, mais les avantages spirituels porteront leurs fruits dans la vie future. Un croyant donc ne se contente pas des avantages matériels qui découlent de la création des cieux et de la terre. Il médite sur cette création et ainsi il grandit dans sa certitude quant à l'existence de Dieu. Il grandit dans sa foi concernant la vie future. Le jour et la nuit sont là pour les besoins de l'homme. Et en citant cet exemple, Allah nous fait comprendre qu'après les ténèbres spirituelles, j'apporte une lumière Et grâce à cette lumière, je mets fin à l'obscurité. Et par l'entremise de mes anges et de mes prophètes, j'accorde des moyens pour dissiper cette obscurité. Et jamais Allah ne s'est départi de sa tradition de manifester cette lumière. À chaque époque, il envoie sa lumière. Et à notre époque, suite à ses promesses, il a envoyé le Messie premier, l'Islam, qui nous a fait comprendre de nouveau l'islam. Dans le monde matériel, il y a des navires qui voguent sur les océans pour transporter des biens et des matériels. Et dans le monde spirituel aussi, Allah envoie ses choisis qui bâtissent des navires spirituels, des navires qui protègent des malheurs et des calamités, afin que les choisis de Dieu puissent atteindre leur objectif et leur but. Et cet objectif est d'avoir le plaisir de Dieu et de jouir du vrai bonheur dans l'au-delà. Et nous constatons aussi que ces faveurs divines n'ont point tari. Lorsque Dieu constate que la situation Zahar al-Fasadu fil Bahri wal Bahri est en train de prévaloir, c'est-à-dire que des troubles sont en train de régner sur terre et sur mer, lorsque ces troubles outrepassent les limites, Dieu envoie ses choisis et fait sortir ses créatures de ces tempêtes. Ces choisis bâtissent des arches et des navires pour faire sortir leurs suivants de ces tempêtes. Et aujourd'hui, cette arche a été bâtie par le Messie premier des salam, et ceux qui vont voyager dans cette arche sont ceux qui vont s'acquitter de leurs devoirs, ou ceux qui vont faire des efforts pour s'acquitter de leurs devoirs. Et le Messie premier des salam nous a expliqué nos devoirs en ce sens dans son ouvrage le Kishtinu, c'est-à-dire l'Arche de Noé. Il a écrit cet ouvrage lorsqu'une épidémie de peste sévissait en Inde, et il a montré une méthode spirituelle pour se protéger de cette épidémie. Il déclare dans son ouvrage que si l'on demande quel est cet enseignement qui va protéger de l'épidémie de la peste, je vais évoquer cela dans quelques lignes qui vont venir après. Et ensuite, il a présenté ses enseignements dans cet ouvrage. Il a déclaré, entre autres, qu'il ne suffit pas de prêter allégeance verbale tant que le cœur n'est pas prêt à suivre ses enseignements. Il déclare aussi que ne croyez pas qu'il suffit de prêter allégeance ouvertement. Allah est en train de voir vos cœurs et Allah va vous traiter selon vos intentions. Ensuite, il déclare, vous êtes la dernière jama de Dieu, faites donc des actes pieux qui atteignent l'excellence. Voilà donc quelques points que je voulais évoquer concernant ce sujet. Dans cet ouvrage, le Messie premier, l'Islam, nous a montré le niveau que l'on doit essayer d'atteindre. En tant que croyant, en tant qu'Ahmadi, on doit essayer d'atteindre ce niveau afin que l'on soit à l'abri dans cette arche du Messie premier, l'Islam. Qu'Allah nous donne la possibilité de vivre selon ses enseignements afin que nous puissions profiter davantage de ces enseignements qui ont été prodigués par l'imam de l'époque. Aujourd'hui aussi, le monde est frappé de calamités. Nous voyons de nouvelles maladies qui sont en train de frapper le monde. Il y a une nouvelle épidémie qui est en train de frapper le monde, c'est-à-dire la grippe porcine. Toutes ces calamités et ces malheurs doivent nous pousser à réfléchir davantage. Nous devons réformer notre comportement afin que nous puissions mettre en pratique les commandements de Dieu, de son prophète et de l'imam de l'époque. Et lorsque nous allons agir en conséquence, c'est là que nous allons profiter de cette eau spirituelle à propos duquel Allah déclare « Fa'ahya bihi al-ardha ba'da mawtiha ». Grâce à cette eau, Allah ranime la terre. Dans le monde matériel, la pluie physique donne naissance à des pousses. De même, l'eau spirituelle accorde une nouvelle vie. Cette eau spirituelle qu'Allah transmet par l'entremise de ses prophètes et de ses envoyés. Seuls en profitent ceux qui sont comme ces terres fertiles, qui ont la possibilité de profiter de cette eau. Allah, par sa grâce générale, a fait tomber cette eau pour la vie spirituelle. Mais pour absorber cette eau, pour en profiter, le cœur doit être fertile. Le saint prophète Mohammed, paix sur lui, a évoqué un exemple dans ce hadith. Il déclare qu'il y a trois types de gens en ce bas monde. Il y a ceux qui sont comme une terre fertile, une terre malléable, une terre qui peut absorber l'eau. Cette terre profite de l'eau et cette terre donne aussi de bonnes récoltes. Lorsque la pluie tombe sur une terre pareille, cette terre absorbe l'eau et donne naissance à des pousses. Et cette terre donne aussi de bonnes récoltes. Et ces plantes servent de subsistance aux autres. Il y a aussi un deuxième type de terre, une terre qui est dure, une terre qui n'absorbe pas l'eau, mais une terre qui amasse l'eau et qui forme un lac. Cette terre ne profite pas de cette eau, mais l'eau s'amasse et les animaux et les hommes en profitent. Et cette eau est aussi utilisée pour l'irrigation. Et ensuite, il déclare qu'il y a un troisième type de terre, une terre qui est plate, qui est rocheuse. Une terre qui n'a pas de crevasse. Cette terre n'absorbe pas l'eau et cette terre n'amasse pas l'eau non plus. Cette terre elle-même ne profite pas de cette eau et cette terre n'arrive pas à retenir l'eau non plus ou que les autres en profitent. Le saint prophète Mohammed lui a déclaré que cette terre qui absorbe l'eau et qui donne naissance à des pousses et à de bonnes récoltes est comme cette personne qui acquiert des connaissances et qui en fait profiter aux autres. Cette personne elle-même profite de cette connaissance et en fait profiter les autres aussi. Il déclare que le troisième type de terre est comme cette terre qui ne retient pas l'eau et qui ne l'absorbe pas. Cette eau spirituelle ne lui accorde aucun avantage et les autres non plus n'arrivent pas à en profiter. Le saint prophète Mohammed lui n'a pas cité le deuxième exemple, il a tout simplement cité l'exemple de l'eau concernant cette deuxième terre. Ce qui signifie que c'est un lac dont l'eau ne profite pas à la terre, mais cette eau profite aux autres directement. Cet exemple est à l'instar de celui qui apprend quelque chose de la religion, mais qui ne traduit pas ce qu'il a appris en pratique. Mais cette personne enseigne aux autres et quant à ceux qui sont de bonne nature, ils en profitent. Lorsqu'Allah envoie ses bien-aimés, cette eau spirituelle affecte ces trois types de personnes. Un vrai croyant doit essayer de faire partie de la première catégorie. Lui-même doit en tirer profit et doit en faire profiter les autres. Parmi ses enfants et dans son environnement, on doit planter ces plantes qui vont rapporter et qui vont profiter aux autres. Et c'est là que l'on va profiter réellement des faveurs de Dieu qui est nafi. Ensuite, Allah déclare « Wabatha fiha min kulli daba ». C'est-à-dire Allah a répandu des animaux sur terre et ces animaux profitent aux hommes. Ces animaux sont donc une forme de faveur accordée à l'homme. Et Dieu a évoqué cela dans plusieurs endroits, tout comme dans la sourate An-Nahl, Allah déclare وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْعٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. Et les bestiaux aussi, il les a créés, vous en trouvez en eux de la chaleur et beaucoup d'autres avantages, et vous en mangez certains, et en eux il y a de la beauté pour vous lorsque vous les ramenez le soir au bercail et quand vous les menez paître le matin. L'homme profite donc de ces animaux. L'homme profite de leur chair, de leur peau et profite aussi même de leurs os. Ensuite, grâce à ces animaux, des gens bâtissent des fortunes. Les gens font du commerce grâce à ces animaux. dans le premier verset de la sourate Al-Baqarah que je suis en train d'expliquer, Allah a utilisé le terme « dab ». Et dans le verset présent, le terme « anam » a été utilisé, « anam » qui signifie « bestiaux ». Mais le Saint-Coran a utilisé le terme « dab » pour tout type d'animaux. « Dab » signifie donc « tout type d'animaux ». Ailleurs, Allah déclare « Walau yu'aridun laha nasa bezulmihim » C'est-à-dire que si Allah devait châtier les gens immédiatement pour leurs crimes, s'il ne devait pas leur accorder du répit pour qu'ils puissent se repentir, Allah aurait tout détruit sur terre et n'aurait pas laissé des animaux sur terre. Allah ne châtie pas immédiatement. C'est pour cette raison que Dieu a créé toutes ces choses sur terre, et parmi ces animaux, il y a des insectes et de grands animaux. Donc, Allah ranime la terre morte et répand tout type d'animaux sur terre et déclare que ces animaux jouent un grand rôle dans la vie de tous les jours. Car si Dieu voulait mettre fin à la vie sur terre, il aurait mis fin à la vie des animaux et l'homme n'existerait plus. Donc, dans le monde spirituel aussi, il y a ces dabas. Et cela concerne ces croyants qui profitent de cette eau spirituelle et qui raniment la terre. Ces gens se répandent sur terre et transmettent le message de Dieu. C'est là donc une grande responsabilité qui est placée sur les épaules de la Jamaat, des envoyés de Dieu. Ils sont là pour ranimer la terre et pour transmettre ce message. Ensuite, à propos des vents, Allah déclare qu'il a assujetti les vents aux croyants. Les hommes doivent profiter donc de ces vents spirituels. Allah fait souffler ces vents spirituels dans son monde spirituel et grâce à ces vents, il soutient ses envoyés et ses serviteurs. Et s'il y a des tempêtes d'opposition, Allah protège les croyants des conséquences de ces tempêtes. Et il assujettit aux croyants ces vents. Si nous examinons l'histoire de la Jamaat du Messie premier, nous allons constater que depuis l'époque du Messie premier jusqu'à présent, Allah a tout le temps changé la direction de ces vents d'opposition et il fait souffler ces vents en notre faveur. Et ainsi, il tourne les âmes pures vers le Messie premier. Quotidiennement, dans mon courrier, je reçois des lettres où les gens disent que c'est Allah lui-même qui les a guidés dans la bonne direction grâce à ces brises fraîches. C'est quelque chose qui est évoqué surtout parmi les Arabes en raison de l'éloquence de la langue arabe. Et surtout aussi en raison de la nature des Arabes. Lorsqu'ils expliquent comment Dieu leur a guidé dans la bonne direction, ils donnent l'exemple de ces brises fraîches qui soufflent dans la bonne direction. Voilà donc le travail d'Allah, c'est-à-dire il envoie des pluies et des vents pour qu'ils guident les croyants dans la bonne direction. Voilà donc Dieu Nafi qui est toujours prêt à nous accorder des avantages. Et aujourd'hui, ce Dieu qui est le Rabbul Alamin, ce Dieu qui a envoyé son choisi pour nous guider dans la bonne direction, nous sommes aujourd'hui dans sa Jamaat. Auparavant, nos détracteurs essayaient de nous arrêter avec violence et entraver notre route avec violence. Et en leur répondant, nous leur envoyons ces fruits spirituels et ces récoltes spirituelles afin qu'ils puissent en profiter. Et aujourd'hui aussi, nous en faisons de même. Et nous prions à l'instar du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, et nous continuons à prier Allahumma ahdikum min fa innahum la ya'lamun, qu'Allah les guide à la bonne direction. Mais aujourd'hui, ils ont adopté une nouvelle méthode et cela est en train de s'amplifier davantage. Ils disent aux Qadiani, rejetez Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, venez vers nous et nous allons vous accueillir à bras ouverts. Donc, ils nous demandent d'abandonner la Jama de Dieu et de venir vers eux. Ils disent, venez vers nous où il n'y a que des troubles et rien que des troubles. D'une part, ils disent qu'ils sont dans cette Ummah, et d'autre part, ils sont en train d'égorger les gens de cette Ummah. En tout cas, non seulement que Dieu nous a guidés dans la bonne direction, mais dans le Saint-Coran, Allah déclare que vous devez leur répondre en disant que la vraie direction est la direction qui est avec nous. C'est pour cette raison que si vous voulez éviter ces troubles, alors acceptez ce Mahdi qui a été envoyé. Dans le Saint-Coran, Allah déclare « Qul anadru min dounillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna wa nuraddu ala aqabina ba'da idh hadana Allahu kallazi istahwathu ash-shayatinu fil ardi hayran » له أصحاب يدعونه إلى الهدى أتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. Dit, au lieu d'Allah, invoquerons-nous ce qui ne peut ni nous profiter ni nous nuire, et tournerons-nous les talons après qu'Allah nous aura guidés comme un homme que les malins entraînent le laissant ahuri sur la terre, bien que ses compagnons l'appellent à la direction en disant « Viens à nous ». Dit, en vérité, la direction d'Allah est la seule direction, et nous avons reçu le commandement de nous soumettre au Seigneur de tous les mondes. Le Messie promis, alayhi salam, explique cette partie du verset « Qul innal hudallah wal huda » et déclare que la direction vient directement d'Allah. L'homme fait des concepts erronés et détourne l'essence du livre d'Allah. Dieu, quant à lui, ne fait pas d'erreur. C'est pour cette raison que la vraie direction vient de sa part. La vraie direction vient de sa part, tel est l'islam. Voilà la chose vers laquelle le Messie promis alayhi salam a attiré notre attention. Allons-nous abandonner cela et suivre ce que disent les autres? Ces gens qui débattent toujours jusqu'à présent sur les versets abrogés du Saint-Coran, ou ces gens qui attendaient le Messie au cours du siècle passé et qui ont rallongé ce siècle, ces gens qui ont rejeté les prophéties du Messie premier, alayhi salam, ou ceux qui se lancent des fatwas de kufr les uns contre les autres, alors qu'ils acceptent le même livre et le même prophète. Quant à nous, nous avons tiré notre connaissance concernant Dieu du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Ce prophète qui est le dernier prophète de loi, envoyé par Dieu lui-même. C'est de lui que nous avons tiré notre connaissance de Dieu. Et Dieu lui a accordé ce grand livre qui est le Saint-Coran. Ce livre qui est une source de direction. Et cette connaissance nous a été accordée par le Messie et le Mahdi de l'époque. Ce Messie et ce Mahdi est venu comme la deuxième manifestation du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, il est venu pour notre avantage. Pourquoi donc allons-nous abandonner Dieu et accepter d'autres que lui? Si aujourd'hui nous entretenons des doutes concernant les déclarations du Messie premier alayhi salam, alors que devons-nous répondre à ces signes de soutien céleste et terrestre qui sont en train de s'accomplir en faveur du Messie premier alayhi salam? Ce sont des signes qui sont en train de perdurer jusqu'à présent. Telle est la promesse de Dieu. Si tout cela n'était que fabrication d'un mortel, alors ces efforts de l'ennemi au cours de ces 120 dernières années auraient dû anéantir l'Ahmadiyya. Mais notre Seigneur nous a tout le temps fait progresser. Et nous avons tout le temps constaté que nos ennemis étaient complètement ahuris et abasourdis. Et en voyant leur état, notre foi en Dieu et en son prophète et en son Messie n'a fait que grandir davantage. Donc, au lieu de nous inviter, nous vous invitons, nous vous disons, venez vers nous et entrez dans cette jamaat du Messie, car en cela réside votre salut et le salut du monde entier. Qu'Allah leur donne la possibilité d'accepter ce message. À la fin, je vais présenter des dires du Messie premier, alayhi salam. On a évoqué dans une réunion avec le Messie premier, alayhi salam, un certain Fazi habitant de Bin qui a voulu répondre au livre Ijaz al-Messie du Messie premier, alayhi salam. Et il n'a pu répondre à cet ouvrage du Messie premier, alayhi salam. Il est décédé avant. Le Messie premier, alayhi salam, déclare que c'est là un grand signe de la part de Dieu en notre soutien. Car dans le Saint-Coran, Allah déclare « Wa amma ma yanfa'u an-nas fa yamkuthu fil ard » mais quant à ce qui profite aux gens, il reste sur la terre. Le Messie premier alayhi salam déclare donc « Si cette jamaat n'est pas de la part de Dieu, comme le dit le détracteur, alors Faizi, qui est utile à la population, aurait dû jouir du soutien de Dieu. Mais nous constatons qu'il est décédé jeune. Et cela prouve que ce qu'il a écrit contre cette jamaat n'est pas quelque chose d'utile à la population. Nos détracteurs doivent tout au moins accepter que ses intentions était mauvaise. Sinon, pourquoi Dieu ne lui a-t-il pas accordé du répit et son soutien afin qu'il puisse compléter sa tâche? J'ai reçu cela en révélation. 30 ans auparavant, je fus frappé d'une forte fièvre. Et au cours de cette fièvre, j'ai reçu cela en révélation. Et l'on dit aussi que les détracteurs de l'islam aussi vivent pendant longtemps. Quelle en est la raison? Le Messie premier salam déclare qu'en fait, je pense que leur existence est avantageuse. Par exemple, Abu Jahl a vécu jusqu'à la bataille de Badr. En fait, s'il n'y avait pas eu d'opposition, il n'y aurait pas eu 30 parties du Saint-Coran. C'est suite à ces objections qu'Allah répond et accorde des révélations et des commandements. Allah accorde du répit à ceux qui sont considérés utiles par Dieu. Nos opposants sont vivants et s'opposent à nous. Et grâce à eux, grâce à leur opposition, Allah nous a accordé une plus grande connaissance du Saint-Coran. Si par exemple Meher Ali Shah ne s'était pas manifesté, je n'aurais pas pu écrire un livre à l'instar du livre Nuzul Masih. Et l'existence des autres religions est pour prouver la beauté de l'islam. Ces autres religions sont là pour que l'on puisse faire une comparaison et pour que l'on puisse prouver la beauté de l'islam. Qu'Allah fasse que nous puissions profiter de son attribut An-Nafi et qu'Allah fasse que nous soyons utiles aussi aux autres et qu'Allah fasse que nous puissions faire partie de cette révolution spirituelle destinée à être apportée par le Messie premier, alayhi salam. Amin.